Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, Maria Pourchelle, une des grandes favorites de cette rentrée littéraire, vient nous parler de son nouveau roman, Feu. Et ça s'embrase, vous verrez. Ensuite, visite de bibliothèque, évidemment, celle du grand styliste rouge et jaune et bleu et vert, Jean-Charles de Castelbajac. Nous partirons à Vaucresson, passer voir notre libraire. Et puis, nous retrouverons Héloïse Goy pour sa chronique jeunesse. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. C'est pas dur, on ne parle que de son roman, cette rentrée littéraire, en lice pour le Goncourt et autres grands prix. Feu, c'est le titre chez Fayard, une histoire d'amour, d'adultère, on en a lu beaucoup, mais pas des comme celle-là. C'est l'histoire de Laure, 40 ans, prof d'université. Elle habite dans une banlieue résidentielle avec Anton, son compagnon, et ses deux filles. Un jour, lors d'un colloque, elle rencontre Clément, 50 ans, banquier, genre Patrick Bateman dans American Psycho, cynique et célibataire. Coup de foudre, liaison, problème. Bonjour Maria Pourchelle.
Bonjour.
Je dis comme Patrick Bateman pour parler de Clément, mais en fait pas tout à fait. Déjà, il tue pas à coups de hache, bon. Et surtout, il est beaucoup moins cynique qu'il en a l'air. En tout cas, il travaille à la Banquise, qui est une banque de la Défense. Il est un peu vide, en fait. Vous vouliez explorer ce monde welbeckien, ça vous intéressait d'aller chercher là-dedans ?
Alors, c'est plus un doux qu'un vide. C'est plus c'est quelqu'un qui est allé... qui est allé assez loin dans l'acceptation de son impuissance. Parce qu'on m'a dit, alors au sens métaphorique du terme, hein, on m'a dit souvent que c'était un lâche, Clément. Et en fait, non, pas du tout. Je pense qu'il faut un certain courage pour consentir à ce point, à l'impuissance et à s'y rendre. Donc, il admet de ne pas pouvoir, de ne pas, en général. Il est plus bartholbien pour moi que welbeckien.
Et puis c'est un exemple type pour les écoles d'écriture d'un personnage qui évolue au fil du roman, je trouve. Oui, mais pour le milieu, la banquise, la défense, vous parlez des tourniquets, des escalators, des réunions. On sent que vous avez bossé le sujet, vous connaissez bien.
Oui, il se trouve que dans une autre vie, parfois encore un peu, je travaille pour le conseil en recrutement. Et j'ai fait quelques missions, ce qui me permet de connaître d'un peu, d'assez près ce milieu-là.
On va arriver à Laure tout de suite, hein, mais j'ai oublié de dire que les chapitres alternent entre le point de vue de Laure et celui de Clément. Et quand il s'agit de Clément, le banquier, chaque chapitre commence par son bilan médical, ses données de smartphone, en fait, rythme cardiaque, tension, etc. Pourquoi ?
Alors, ça répondait déjà à une première nécessité méthodologique, parce qu'il fallait vraiment que je distingue les deux voies, comme les chapitres sont très courts, trois pages de Laure, parfois deux pages de Clément, pour que ça ne fasse pas trop au frein à main, il fallait vraiment que je donne un signal au lecteur. D'une part, et d'autre part, donc ça c'était méthodologique. Stylistiquement, j'aimais bien le fait de commencer les chapitres Clément par une abstraction, parce que c'est quelqu'un qui vit dans l'abstraction, il vit dans une tour de la Défense, il ne touche pas terre, il est dans la finance, et il n'y a pas pire abstraction que trois constantes données par son téléphone portable qui lui indiquent en fait son humeur. Et il y a une quatrième raison, mais que pas beaucoup de lecteurs ont décelé, c'est si on lit ces constantes-là, ça nous donne une indication supplémentaire, comme parfois Clément il peut mentir ou se mentir sur ses états émotionnels, notamment sur l'effet que lui fait Laure. Bah, quand il dit « tiens là, je m'en fous », on peut constater en revanche que sa pression artérielle, que sa respiration, tout ça s'accélère en fait.
Ça fonctionne comme un détecteur de mensonges.
Un peu. Et au gré de... Donc, Clément se diminue de vitalité au gré du roman. Et si on fait très attention, les constantes le rapprochent d'une certaine extinction. Voilà, pour rester dans la métaphore du feu.
On n'en dira pas plus, même si ce n'est pas un polar. Les chapitres qui concernent Laure sont écrits à la deuxième personne du singulier, donc tu. Tu as franchi les 3 mètres pour l'embrasser, et c'était comme franchir un tapis de pointe pieds nus. C'est cette manière qui s'est imposée.
Alors, il y a des meilleures métaphores dans ce texte.
Oui, non, j'en ai pris une au hasard pour illustrer.
Je m'en souvenais plus de celle-là.
Ben, elle est bien celle-là en plus.
Ah ouais ?
Ah bah ouais, on le voit bien le tapis de pointe. Mais pourquoi vous avez mis la deuxième personne du singulier ? C'était là encore pour bien différencier les deux chapitres ?
Alors, enfin, les deux récits. Forcément, ça ne pouvait pas être la même énonciation à chaque fois, mais Laure, elle vit un amour caché, clandestin, elle n'en parle quasiment pas, elle ne s'en parle qu'à elle-même. Donc le tu est celui vraiment de l'adresse, du discours intérieur, parfois de la semonce intérieure, elle s'engueule, elle s'accompagne, elle s'analyse, donc oui, elle s'adresse à elle-même. Et en me relisant après, je me suis demandé s'il n'y avait pas un... Elle répète tu, et s'il n'y a pas...
Meurs.
Voilà, un côté lacanien là-dedans, où elle n'ordonne pas à cet amour de mourir tellement il l'encombre, peut-être.
Ah ben dans le genre lacanien, elle entend des voix aussi, Laure, celle de sa mère et de sa grand-mère, qui soit la félicite, l'encourage ou l'admoneste plus souvent, lui disent « ça va pas ma fille, pourquoi tu fais ça ?»
Ouais.
Pareil, c'est la conscience de Laure, c'est son éducation qui parle, oui. C'est psychanalytique.
Oui, on est plus dans le conditionnement intériorisé que... Ce qui est redondant dans le conditionnement, plus que dans Jeanne d'Arc, elle a effectivement la voix de deux femmes qui l'obsèdent tout le temps. Il y a notamment sa mère qui la rappelle toujours à l'interdit, à la décence, à une certaine convenance et surtout conception quasi religieuse de la conjugalité. Et c'est cette mère-là, progressivement, cette voix-là, au gré du roman et à mesure que Laure va traverser le feu de cette passion amoureuse et sexuelle, va se taire progressivement. Et il y a celle de sa grand-mère qui, en revanche, est sur une autre rhétorique qui est celle de... Parce qu'elle a beaucoup plus souffert, la grand-mère, qui est celle du « la vie, ça dure 5 minutes, vas-y ».
Il y a par exemple « demande-lui, suggère la mère de ta mère, du paradis des femmes de Somme, franche du collier ». C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a à la fois
ça
fait le portrait de cette mère.
C'est une femme qui, comme nous toutes, vient d'une matrilinéa et qui... Enfin, moi, je ne cesse de m'étonner du caractère, de la jeunesse, du caractère extrêmement récent de mes droits et de ma liberté. À mesure que je connais la vie de ma grand-mère et même de ma mère et de mon arrière-grand-mère, je ne vous en parle même pas. Et donc, quand j'écris sur les femmes, je suis toujours obsédée par l'histoire féminine préexistante.
Dans cette alternance des deux points de vue, il y a un côté The Affair, la série, je ne sais pas si vous la connaissez.
Si, on en a beaucoup parlé en fait. Du coup, j'ai regardé attentivement.
C'est-à-dire qu'au début, ça commence avec un épisode avec le point de vue de l'homme, et puis un autre épisode, c'est le point de vue de la maîtresse. Ouais. Et puis ensuite, ça se confond un peu. Il y a un peu de ça, mais on n'est pas du tout dans le même esprit.
On a tellement parlé. C'est le même regard sur le même moment. Dans Feu, il y a simplement les variations d'énonciation qui se sont déjà vues dans le roman par ailleurs. Ça, j'ai rien inventé. Mais ils ne parlent pas du même instant en fait. Ils font progresser chacun sur des temps différents. Et ils font progresser l'histoire.
Alors on va faire une petite pause, mais juste avant, je voulais citer une de vos phrases dans ce livre, parce que vous étiez fâchée de celle de tout
non,
à l'heure.
Non, je n'étais pas fâchée.
Alors moi, je l'aimais beaucoup, mais celle-là, tout le monde est d'accord. « Qu'est-ce que tu fous encore avec ta crème, tes sérums et tes mini-jupes à défendre ta jeunesse comme la Palestine, centimètre par centimètre ? Tu vois bien que c'est foutu. » Et ça, c'est une phrase qui tourne partout sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué.
Ah oui ?
Pas vous ?
Non, j'ai pas d'abonnement.
On vous l'a pas ressorti déjà ?
Si, on m'en a parlé. Mais n'étant pas sur les réseaux sociaux, ça...
Et je le dis aux auditeurs qui ne vous ont pas encore lu, c'est bourré comme ça de considérations drôlatiques, pas que, mais souvent,
merci.
Et en même temps très profondes. Restez avec nous, Maria Pourchet, on se retrouve dans un instant.
La voix est libre.
Nicolas Caro.
La voix est libre, toujours avec Maria Pourchet pour son nouveau roman Feu chez Fayard. On n'a pas parlé du titre encore. Feu, c'est la passion, le feu qui réchauffe mais qui brûle et qui dévaste en même temps, ou c'est le feu du départ, ou rallumer le feu chez Clément très froid ou chez Laure un peu éteinte.
C'est vraiment le feu de la passion avec tout. C'est plutôt la première exception là. C'est celui qui détruit, qui réchauffe, celui. Laure le traverse parce que c'est un phénix. Clément en a peur de ce feu comme un animal. C'est plutôt ce feu-là.
Je suis assez fasciné par le processus qui permet de choisir un titre. Comment c'est arrivé ? Il était là avant de l'écrire. Il est arrivé après.
Tout à la fin. Parce qu'il y avait un premier titre qui était vraiment pas super.
On peut savoir ou pas ?
Ça s'appelait L'époque. Et à choisir. Et mon éditrice a eu un pas, elle n'a pas mis un veto parce que c'est pas son genre, mais elle m'a dit tu devrais quand même davantage réfléchir au titre. Et une fois que j'ai mis le point final, peut-être que je me suis dit, effectivement dit feu, point d'exclamation en moi et que c'est ce qu'il en reste, mais en tout cas ça s'est imposé.
Mais d'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais l'époque a un rôle aussi dans cette histoire. D'ailleurs il y a l'étymologie d'époque,
arrêt,
voilà. Et on sent, ouais, c'est assumé, même c'est souligné, que vous voulez aussi analyser l'époque par cette histoire.
Alors analyser, ça sera un peu ambitieux à l'échelle d'un roman, mais oui je voulais dire quelque chose de mon temps. Ouais.
La passion et l'adultère, c'est quand même un thème assez casse-gueule, parce qu'il a été beaucoup fait déjà. Est-ce que vous avez hésité? Alors, tout le monde s'accorde à dire que justement, vous renouvelez complètement ce genre-là. Est-ce que vous avez hésité justement à partir là-dedans? C'est casse-gueule parce qu'on peut très vite verser dans le mièvre, ou alors avec beaucoup trop de distance.
Ah ben, j'ai hésité pendant des années, même dans mes précédents romans, quand ce thème-là affleurait, je le contournais très vite, ça faisait quatre lignes et tout. Et là, je m'étais toujours dit que j'écrivais un livre sur la passion. Je ne pensais pas forcément ni aux amours triangulaires, ni aux passions adolescentes, je sais pas, j'en savais rien. Mais je voyais ça un peu comme un incontournable dans une trajectoire d'écrivain. Mais comme vous dites, oui, l'écueil de la mièvrerie est réel, et j'ai eu le sentiment que je pouvais l'éviter justement en ne me focalisant pas sur une énonciation féminine ou masculine qui aurait souffert de tout ce que je disais pas du point de vue de l'autre, de la nuance, de l'ironie, comme vous disiez aussi tout à l'heure, que pouvait apporter par l'autre, de la cruauté de la convergence impossible dans les passions amoureuses. Et pour ça il fallait vraiment que je passe donc par la voix de l'homme et de la femme, et j'ai eu le sentiment qu'en les faisant se confronter, en assumant ce conflit des points de vue, des mentalités, des attentes, des sentiments
que l'histoire fait naître.
Voilà, que c'est une histoire d'amour fait naître. En l'assumant dans le dispositif même, j'allais échapper à un côté un peu gnangnan. Voilà. A priori, j'ai réussi, peut-être même un petit peu au-delà de la lettre.
Et est-ce que l'astuce, c'était pas aussi de faire comme vous avez fait, c'est-à-dire qu'ils s'échappent l'un l'autre sans arrêt, c'est-à-dire qu'ils ne se sautent pas dessus tout de suite?
Non, ils tentent de s'éviter.
Enfin, voilà. Ils se rejoignent sur un lieu de vacances, puis finalement non, enfin je ne raconte pas tout, mais il y a plein comme ça de...
Oui, parce que ces histoires-là sont d'une part déjà soumises à la loi de la convergence impossible, c'est-à-dire que quand l'un des deux ose s'approcher du feu, l'autre s'en recule. L'autre est toujours une menace dans la passion, puisque on pense toujours qu'on va pouvoir y échapper. Donc si l'autre avance, il est agressif, et on recule, même si on en a envie. Et il recule à mesure.
Et la passion elle-même est une menace. Alors il n'y a pas du tout de morale évidemment dans ce livre, enfin en tout cas de jugement, mais il y a en tout cas l'idée que, comme on le sait, les histoires d'infidélité finissent mal. Je me demandais, en tant que créatrice, de démiurge, comme ça, de marionnettiste de vos personnages, vous n'avez pas des scrupules à ne pas les laisser être heureux, quoi?
Alors, elle ne s'en sort pas si mal, je trouve.
Ouais. Non, mais de toute façon, voilà, on ne va pas raconter la fin de l'histoire, mais c'est dur, quoi. C'est de la souffrance, beaucoup, quand même.
Non, j'ai aucun scrupule. Alors, est-ce que ça fait de moi un monstre?
Est-ce que c'est pour contrer la mièvrerie? C'est ça ce que je veux dire. Que si ça se finit bien,
c'est pas délibéré.
C'est pas la démarche.
Je ne pense pas qu'il faille à tout prix éviter les épreuves, la souffrance. Ce que j'essaye de dire, c'est que d'ailleurs, Laure le dit elle-même. Elle dit pour les femmes, mourir est une habitude. Et que
par cycle
et tout. Et en revanche, pour Clément, le cycle, changer de cycle est de l'ordre de l'obstacle infranchissable. Et d'ailleurs, c'est plutôt pour lui que ça va mal finir. Moi, je trouve que Laure, elle s'en sort bien. Il y a une espèce de renaissance. Il y a un reset dans sa vie.
Et de la mélancolie aussi.
Ah oui, mais alors ça, comment l'éviter?
Non, mais ce que je veux dire, ce que j'essaie de comprendre, c'est au moment où vous écrivez, mais en fait, moi, je me dis que vous pensez que ça va forcément tomber dans du mièvre et du gnangnan, mais est-ce qu'on n'a pas envie, comme on est comme ça, on a tout pouvoir sur son histoire quand même, de se dire, allez, qui se marie, qui ait beaucoup d'enfants.
Non, moi je là ça marchait pas. Non, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est plutôt envers le lecteur. C'est plutôt un cadeau au lecteur qu'un cadeau au personnage. Ça, là pour le coup, ça m'aurait apparu comme à l'encontre un certain réalisme psychologique, sociologique. Ouais, ça pouvait pas finir tel que vous le disiez. Et franchement, on n'a pas envie, non?
Non, mais en vrai, non.
En vrai, non.
Mais En fait, la morale, quand même, c'est qu'on perd à tous les coups. Enfin, surtout du point de vue de Clément. Mais soit on est le méchant, soit on prend les coups. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à un moment différemment.
Mais... C'est ce qu'il pense. C'est effectivement sa terreur qui a une vue de l'esprit et qui le fait reculer toujours plus loin jusqu'à tomber dans un autre gouffre. Mais disons qu'on voit davantage ce que l'on perd, mais on met plus de temps à voir ce que l'on gagne dans la passion. Il y a de réels bénéfices à la passion en termes d'assurance, en termes de maturité, d'humour aussi. Mais bon, là, peut-être le volume 2...
On n'a pas parlé de Vera encore, qui est très intéressante, qui est la fille, qui a 17 ans, la fille de Laure. Et ça commence par une scène, on la rencontre en fait pendant une scène au lycée, où elle a lancé un mouvement féministe dans son lycée, et elle se fait convoquer par la directrice, et Laure aussi. Et on voit bien qu'il y a deux générations là qui ne se comprennent pas trop, avec Laure qui trouve ça...
admirable,
oui,
quand
elle
même.
Comprend très bien, mais à la fois, c'est peut-être un peu, un peu loin dans l'histoire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire à toutes les filles, dans chaque classe, dès qu'un nom masculin est prononcé, il y a une fille qui sort de la classe. Et elle se retrouve dans la cour.
Ouais. Et à la fin, toutes les femmes sont dans la cour, il n'y a plus que les mecs dans la classe. Ouais.
On voit bien la radicalité
on voit bien les excès
de l'histoire. Quoi.
Mais tout de même, moi j'ai des souvenirs de mes cours de philo, de lettres, d'économie au lycée, qui étaient quand même très, très... très, très testostéroné.
Mais vous racontez ça parce que vous regardez la nouvelle génération de 16-17 ans avec un peu d'étrangeté ou...
Alors, oui, elle met un peu plus étrangère que je ne l'aurais cru. Je ne me souvenais pas qu'à cet âge-là, je ne veux pas généraliser, je parle de quelques jeunes filles qui m'ont frappée dans leur volonté de représenter quelque chose comme un ordre moral, comme une... un certain puritanisme. En tout cas, Vera, c'est ça. Elle représente, paradoxalement, parce qu'elle a 17 ans, alors elle devrait fumer des pêtes et sortir avec des garçons. Et en fait, non, elle représente l'ordre moral et le puritanisme, ce qui fait d'excellentes terroristes. Hein, et c'est peut-être progressivement vers ça qu'elle va. Et c'est elle qui... elle voit dans sa mère une faillite. Elle comprend très tôt ce que fait sa mère. Au départ, on a l'impression qu'elle y voit une faillite morale, une faillite de la dignité de la femme, ce qui est très étrange parce que ça va plus chercher ses références avant les années 60, alors qu'elle a 17 ans. Et
elle est beaucoup dans le jugement d'ailleurs.
Elle est beaucoup dans le jugement, mais finalement, ce qu'il y a derrière ça, c'est une jalousie. C'est parce que le grand amour que sa mère est en train de vivre, parce qu'une femme amoureuse, elle n'a plus d'enfants. Même, ils sont là, ils existent, mais voilà... Et pendant un certain temps, elle passe dans une sphère temporelle où elle n'est plus une mère. Et c'est cet abandon-là que ressent Vera, et par toutes les cellules de son corps. Et c'est de cela qu'elle se venge.
Maria Pourchet, dans un instant, si vous voulez bien, on visite les coulisses de votre écriture. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, toujours avec Maria Pourchet, qui signe Feu. Chez Fayard, roman hyper remarqué en cette rentrée, sur tous les prix et tout ça, on va en parler justement. Mais là, c'est l'heure d'aller voir dans la cuisine du restaurant, voir comment ça fonctionne à l'atelier. Si vous voulez bien, Maria Pourchet, on n'est pas obligé. Hein.
Mais si.
Comment c'est arrivé la première fois que vous avez écrit une phrase en vous disant « je l'écris pour commencer une histoire ou un roman » En tout cas, dans une démarche littéraire.
Alors, c'est arrivé assez tard. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé avant de le faire, depuis l'école primaire. Je prétends être écrivain. Et j'ai écrit la première phrase de mon premier livre à 30 ans, en Italie, où j'étais en train de me plaindre auprès de mon compagnon que j'allais en crever de ne pas écrire. Et alors, c'est quelqu'un de très doux et de très patient. Mais je pense qu'à ce moment-là, vraiment, il n'en pouvait plus. On était dans une Fiat, on traversait des vignes ou je ne sais pas trop quoi. Il a arrêté la voiture et il me disait « mais fais-le ton truc » au lieu d'en parler.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous freinait ?
Ah, j'avais peur des lettres de refus, j'avais peur d'échouer. Et en échouant, je n'étais pas sûre de pouvoir passer outre un premier échec. C'est-à-dire que si j'avais envoyé mon manuscrit et qu'on m'avait dit non, je ne faisais pas partie de ces gens qui auraient eu immédiatement, je crois, le courage de s'y remettre. Et j'aurais entendu le non comme définitif. Donc il fallait que je sois vraiment sûre de mon coup. Que je lise, que je réfléchisse. J'ai lu énormément.
Qui est en fait la meilleure formation pour les écrivains. Un écrivain qui ne lit pas, c'est toujours un peu suspicieux.
On va citer personne. Oui.
Alors vous êtes dans la Fiat, vous êtes dans les vignes en Italie, il vous dit écoute, fais-le et c'est tout. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ?
Peu après, on arrive dans un petit village qui s'appelle Trani et il va faire, il va se balader et moi je me mets sur, sur le lit avec, avec un carnet, genre une espèce de, vraiment de cahier d'écolier et je commence à écrire une histoire avec des vélos. Ça va être la naissance de mon premier livre avancé. Et j'écris une scène où, où quelqu'un tente d'emprunter un vélo. Quelqu'un regarde quelqu'un tenter d'emprunter un vélo. C'était pas les Vélib à l'époque, mais...
Mais vous aviez déjà toute l'histoire ?
Ah non, absolument pas. J'ai eu un personnage un peu curieux, comme ça, un peu observateur, qui tantôt se postait sur un balcon, se postait à proximité d'une borne de Vélib. Et c'était une jeune fille, un peu... Qui était arrivée de sa province comme moi 10 ans auparavant. Je suis arrivée à Paris, j'avais 20 ans. Et voilà. Et j'ai suivi ces déambulations en général en vélo.
Et ça a été long à écrire ?
Celui-là, oui, parce que j'y suis beaucoup revenue. J'avais peur, hein. J'avais vraiment du mal à le lâcher. Et je l'ai fait lire à quelqu'un qui a beaucoup compté, qui était la rédactrice en chef d'une émission littéraire qui s'appelait, je crois, Le Bateau Livre.
Mmh, avec Frédéric Fernet.
Ouais. Ouais, Frédéric Fernet. Et cette femme s'appelle Marianne Faurobert. Et je ne sais pas pourquoi je voulais, je regardais beaucoup cette émission, je voulais lui faire... Je l'avais rencontrée une fois. Et je voulais qu'elle me lise et qu'elle me dise. Et parce que c'était une grande lectrice. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a fait un peu travailler. Et elle m'a dit que, que ce livre pouvait être publié.
Et ça a été publié chez Gallimard, je crois.
Oui.
À La Blanche.
Dans La Blanche,
oui. Donc super, hyper prestige. Comment vous l'avez... envoyé par la poste, vous avez eu d'autres refus, d'autres éditeurs. Comment ça s'est passé ?
Je l'ai envoyé chez Vertical, je me souviens. Enfin, Marianne Faurobert l'a envoyé chez Vertical.
Et aussi Gallimard.
Ce qui est aussi Gallimard, mais moi je faisais pas trop ce genre de lien à l'époque. Vertical avait dit oui. Et au même moment, La Blanche, Jean-Marie Laclaftine m'a dit oui aussi. C'est irrésistible, hein, La Blanche.
Et la première fois que votre premier roman a paru, vous êtes allé dans les librairies voir s'il était bien là.
Oui, elle n'y était pas. C'est ça, hein, la réalité. Si certains aspirants romanciers nous écoutent.
C'est quoi est-ce que vous avez une discipline, un rituel, des horaires très précis pour écrire ? Un endroit très précis aussi.
Alors, le seul rituel, c'est que j'ai besoin du mouvement. Alors, je ne sais pas si c'est cette épreuve, ce moment initiatique en Italie dont je vous ai parlé, mais je commence dans un train à l'étranger, n'importe où ailleurs en France, mais
ça
un train,
frais,
un avion. Et ensuite, après, seulement je peux reposer le truc. C'est très vivant, quoi. C'est un truc virevoltant. Au départ, il faut que je l'attrape et je sais pas. Le fait d'être en mouvement, j'attrape quelque chose. Il y a quelque chose qui accepte de se poser à ce moment-là. Et où c'est la sauvagerie, l'isolement, je sais pas.
Et donc, vous prenez un train ou vous voyagez exprès pour avoir une bonne idée ?
Ah oui, ça
vous
peut aller jusque-là.
Vous partez une semaine, je reviens quand j'aurai mon idée, quoi.
Enfin, l'idée à ce moment-là, je l'ai un peu déjà, mais pour le commencer, mais parfois j'ai commencé des romans qui avaient absolument rien à voir avec l'idée que j'avais en tête. Et oui, il faut que je me déplace.
Et vous écrivez tout d'un coup la trame et ensuite vous revenez pour raboter tout ça ou c'est au fur et à mesure ?
J'écris pas tout d'un coup parce que je peux pas me le permettre. Il y a d'autres dimensions de ma vie qui font que je peux pas passer. J'adorerais passer 2-3 mois sur un livre comme ça. Mais je l'ai jamais fait. Donc j'écris très très vite, un peu comme on crie, quoi. Et je reviens pas, je ne relis pas ce que j'ai écrit. Ça peut être très court ou plus long. Et ensuite. J'ai différents G comme ça. J'ai jamais aimé ce mot, mais je trouverai jamais une analogie. Voilà, donc j'ai différents G et j'y reviens pour les sculpter, hein, dans la masse un peu après.
Vous êtes scénariste aussi, qui est un mode d'écriture complètement différent que le roman. Est-ce que c'est un problème justement pour la romancière que vous êtes ? Est-ce que ça vous contamine quand vous avez beaucoup passé quand vous avez passé beaucoup de temps sur un scénario, est-ce que vous avez des réflexes des...
Non, parce que
c'est
que
une
ça
aide enfin, voilà.
Non, au contraire, le roman me lave un petit peu de l'écriture scénaristique. C'est-à-dire que quand j'y reviens, il y a presque un mouvement thérapeutique. C'est une thalasso, quoi. C'est pas du tout le même bénéfice, c'est pas du tout les mêmes émotions. Ça fait limite pas appel à la même partie du cerveau. Donc, quelque part, plus je mobilise une certaine rationalité, un certain sens de la grammaire dans le scénario, plus je vais être libre. J'ai l'impression, en tout cas dans mes romans. Et ce que ça m'apporte, c'est parfois un sens du dispositif, de l'endroit où il faut couper la page. Mais là, pour le coup, je ne sais pas lequel nourrit l'autre. Si ça se trouve, c'est ma façon d'écrire des romans qui m'a aidé à écrire des scénarios.
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un engouement pour ce nouveau roman, Feu, incroyable, là, cette rentrée littéraire. Vous avez toujours été très estimé par la critique et par le public, d'ailleurs. Mais là, on sent qu'il se passe un truc supplémentaire, quoi, comme un cran au-dessus. Comment vous vivez de ça? Est-ce que vous vous en rendez compte?
Alors, parfois je m'en rends compte. C'est tellement surprenant que pas grand-chose pouvait prévoir ça. Enfin, il y avait d'excellents signes au mois de juin. Il y avait des gens qui ont témoigné sur les réseaux de leur enthousiasme pour ce livre, mais que le feu prenne à ce point-là, j'en suis assez intimidée. C'est vraiment le mot qui vient. Je suis un peu intimidée. Je suis très joyeuse. En général, quand j'écris un livre, je suis immédiatement après dans le prochain projet. C'est une façon de me protéger aussi. Mais alors là, je n'ai jamais vécu une joie aussi. Aussi entièrement, quoi. Je fais rien d'autre et je profite de ce merveilleux accueil, porter, de cette générosité, ouais. des lecteurs, des journalistes, des libraires. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour là-dedans, en fait.
Vraiment tout à fait entre nous. Vraiment. Est-ce que, de temps en temps, quand vous vous endormez, juste avant, vous pensez à votre discours du Goncourt? Juste après le Goncourt.
Non, je suis désolée, je vais vraiment vous décevoir. C'est pas. Déjà, je dors exceptionnellement bien en ce moment. Donc, j'ai la tête sur l'oreiller, je m'endors. Et encore une fois, c'est vrai, je n'ai jamais été autant dans le présent. Et c'est, franchement, ça fait du bien de ne pas être dans la projection, mais je n'ai même pas une projection à 3 semaines et je pense vraiment que je me l'interdis.
Bon, mais quand même, prenez quelques notes, essayez d'y penser un peu, parce que là, c'est... Bon, vous êtes ma favorite.
Merci.
Feu, c'est votre nouveau roman chez Fayard. Restez avec nous, Maria Pourchet, dans un instant. Nous partons chez Jean-Charles de Castelbajac pour visiter ses livres. À tout de suite.
La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre continue toujours avec Maria Pourchet pour son roman Feu chez Fayard. Il est l'heure de la visite de bibliothèque, celle de Jean-Charles de Castelbajac aujourd'hui. Il publie un beau livre grand format en jaune et bleu et rouge et vert. On reconnaît tout de suite, ça s'appelle Dessin tout terrain chez Flammarion, comme si on feuilletait son carton à dessin des années 70 à nos jours. Comme une autobiographie par le dessin, on va tenter, tiens, son autobiographie par les livres. Bonjour Jean-Charles de Castelbajac.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Non, c'est un plaisir.
Je suis un peu bloqué parce que je ne sais pas par où commencer. Là, on n'est que dans l'entrée et il y a déjà 1000 choses à dire. Oh. C'est toujours pareil chez les artistes. Il y a des tableaux et il y a des sculptures.
On va
y venir, mais aussi un trophée de chasse.
Il y a un trophée de chasse.
Vous pouvez peut-être nous expliquer maintenant, d'ailleurs. Bah, c'est un chevreuil.
Trophée de chasse conquis de haute lutte à Drouot. En fait, c'est une tête d'âne empaillée, mais c'est une peluche.
C'est une peluche, on rassure tout le monde.
Il faut quand même le dire, il faut rassurer tout le monde. Mais qui est quand même dans une structure d'écu et de trophée.
Mais grandeur nature.
Et grandeur nature et qui appartenait à Nelly Kaplan. Ah. Voilà, la réalisatrice qui avait fait La fiancée du pirate. Voilà, et je le trouvais extrêmement touchant. Et voilà.
Et on va venir au livre, mais vous avez aussi une sorte... D'énormes blocs de granit en forme de smiley, c'est pas du granit d'ailleurs.
C'est ça, c'est un pur néandertal, hein, donc c'est les premières traces de l'homme. On a trouvé cette forme de smiley taillée dans la pierre, non je plaisante, c'est une sculpture de Vincent Koller, qui est un artiste belge que j'aime beaucoup, qui traite avec ironie l'histoire de l'homme.
Voilà. 1,50 m de diamètre et c'est dans l'entrée, il faut un peu de place quand même.
Oui, il faut un peu de place.
On est devant une très belle bibliothèque, on va y venir tout de suite, mais il y a juste avant, je voulais dire, une très belle photo iconique de Jean Genet,
oui.
Avec ses manches retroussées, comme un voyou qu'il était, quoi.
Absolument. Parce que j'ai toujours adoré d'abord la photographie, hein, très tôt, à partir des années 70, donc j'ai collectionné des photos, et j'aimais les photos qui avaient une sorte de j'aimais les portraits qui traduisaient bien la personnalité. Et dans cette photo de Genet, comme dans cette photo d'ailleurs derrière de Raoul Haussmann par Sanders, dans cette photo de Genet par Brassailles, il y a ce côté défiant, il y a ce côté « ne viens pas me chercher,
parce que
vous ne m'aurez pas ». donc il a les mains dans les poches, les manches sont roulées très hautes, hein, et c'est ouvert en bravade sur son torse. C'est une très belle photo.
Et vous aimez cette figure de l'écrivain, justement, un peu voyou, quoi, délinquant, qui a fait de la prison et tout.
J'aime cette figure de l'écrivain téméraire. Donc, qu'il soit téméraire dans le dandysme, comme Barbet de Révilly, qu'il soit téméraire comme Conrad dans sa défiance des canaux naturels de la carrière. Voilà.
Justement, en entrant, j'ai été tout de suite rassuré.
J'aime les écrivains briseurs de glace, en fait.
C'est qu'il y a un gros volume de Conrad dans la bibliothèque de l'entrée. On y vient tout de suite, mais d'abord un mot sur cette bibliothèque fabuleuse, colorée, d'une forme très
particulière. Merveilleuse bibliothèque qui m'a été offerte par un ami qui est parti et qui va bientôt avoir une grande rétrospective au Centre Pompidou, qui s'appelle Ettore Sottsass, qui était un designer architecte et qui a fondé un mouvement post-moderne qui s'appelait Memphis. Et là, c'est une bibliothèque qui s'appelle Carlton, en forme de totem, hein, donc avec une verticalité. J'aime bien cette idée. En général, les bibliothèques sont très à l'horizontale, bien entassées sous le poids des livres. Celle-ci, elle est presque... Elle est verticale, quoi. Elle ouvre les bras, elle a des ailes.
Il y a des triangles, il y a des descentes, voilà, il y a des côtes, voilà. Il y a du bleu, du vert, du orange.
J'aime
du
le côté conquête de l'espace de cette bibliothèque, c'est important. Et coloré, parce qu'effectivement, chaque livre est une porte vers une autre dimension chromatique de l'âme.
Bravo. Je la garde, celle-là, si vous voulez bien.
Mais avec plaisir, avec plaisir.
Alors, justement, au centre, il y a le gros volume Quarto Gallimard de Joseph Conrad. Oui. Est-ce que...
Essentiel, hein. Et essentiel pour moi, parce que j'ai la même affection pour cet ouvrage que j'ai pour la vie des conquistadors, pour les chroniqueurs du Moyen-Âge. Il y a l'épique, hein. Il y a la conquête, l'épique.
L'aventure.
Il y a aussi, le tourment intérieur, la rédemption dans les duellistes, dans Lord James. Dans Lord James, c'est tout à fait étonnant.
Lord James, il faut qu'on en dise un mot, c'est magnifique cette histoire. C'est l'histoire d'un type qui est sur un bateau.
C'est l'histoire d'un type qui est sur un bateau, qui est capitaine d'un bateau, hein, qui abandonne son bateau en pleine tempête, avec
tous les passagers à bord.
Les passagers qui sont en l'occurrence des travailleurs immigrés, en pleine tempête, désespéré, il les abandonne, et quelques jours après, il arrive dans un port où finalement la tempête s'est calmée et tout, et là, il découvre que son bateau est arrivé à bon port. Et là, à partir de là, son enfer, c'est la rédemption. Il va chercher tous les moyens pour se faire descendre, pour mourir. Et c'est au travers de ce chemin qu'il va trouver la paix et la sérénité.
C'est l'histoire de quelqu'un qui traîne sa honte pendant toute sa vie.
C'est ça. C'est
ça. Et essayer de s'en sortir malgré tout.
C'est ça.
Alors, juste à côté, je vois un exemplaire, et j'en croise parfois dans les bibliothèques, j'en parle toujours parce que c'est fabuleux, un coffret d'un manuscrit des éditions des Saint-Pères. Oui. Et là, c'est Jean Cocteau, La Belle et la Bête. C'est le manuscrit, c'est pour Jean Cocteau, c'est pour les deux, ça vous touche le manuscrit ?
C'est le manuscrit, c'est le manuscrit magnifique, mais c'est Cocteau. C'est la protéiformité de Cocteau, c'est le génie de Cocteau. C'est l'idée aussi du touche-à-tout qui est honni par la société française, hein, donc finalement il est poète, il est réalisateur, il sait tout faire, et c'est presque un handicap. J'ai vécu ça pour d'autres raisons et c'est très important.
Et alors, il y a aussi un ouvrage essentiel, il faut absolument qu'on en parle, c'est une pièce de collection, en fait, quoi.
Oui.
Ça s'appelle Rock'n'Roll Baby.
Ah, Rock'n'Roll Baby, c'est un ouvrage tout à fait extraordinaire. Attendez, je vais choisir une bonne page, parce que Rock'n'Roll Baby, c'est un ouvrage qui appartient...
Petit format.
À petit format. Voilà, on va mettre...
Johnny B. Goode.
Johnny.
C'est un livre musical...
Ah,
il n'y a plus de piles.
Il y a plus de piles. Mais c'est un très bon ouvrage qui appartient à ma fille Eugénie. Voilà. Et qui est un petit livre où le son émerge des pages. Et moi, très souvent, lorsque je lis un ouvrage que j'aime, il y a une bande son qui s'installe au fond.
Mais c'est des bouquins pour gamins, c'est une collection assez connue.
Mais oui. C'est assez beau, finalement, cette idée de faire sortir de la musique d'un livre.
Très beau, très beau.
Parfois, c'est les sons avec les instruments. Il y a aussi
très
un
beau,
livre comme ça, cette collection.
C'est quelque chose qui pourrait exister dans une autre dimension. Par exemple, en ce moment, il y a une bande dessinée qui est en train d'être créée sur mon ami Malcolm McLaren, qui était le fondateur, entre autres, des Sex Pistols. Et je me disais que ce serait très beau qu'il y ait une bande-son à cette bande dessinée.
Ah ouais. Il faut avec un CD.
Mais ça deviendrait un dessin animé, quoi.
Mais en fait, ce Rock'n'Roll Baby, il a sa place dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque des grands.
Il n'y a pas de
hiérarchie.
Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. D'ailleurs, il n'y a pas de hiérarchie aussi dans ma manière de créer, dans ma manière de... Je pense que c'est aussi la force de mon travail, c'est cette transversalité.
Je vois par les portes-fenêtres qui donnent sur le salon d'autres livres.
Alors là, il y a deux livres clés qu'on a encore. Il y a Beautiful Loser, qui est un livre d'art que j'aime vraiment beaucoup, sur un mouvement très alternatif de Portland, dans l'Oregon, où les artistes en général choisissent d'être des perdants ou de ne pas réussir. Hein. Alors il y a Barry McGee, il y a
des losers magnifiques.
Des losers magnifiques. Hein. C'est ce qui est écrit sur la tombe de McLaren. Il y a écrit mieux vaut un échec magnifique qu'une vie médiocre. Et en fait, ça s'adresse aussi à la musique, puisqu'il y a des groupes comme les Dandy Warhol, comme Brian Johnston Massacre. Donc, c'est un mouvement qui m'a toujours vraiment intéressé.
Il y a beaucoup de livres d'art, donc des grands formats, évidemment,
oui.
Assez lourds. Oui. Est-ce que vous avez une position, un fauteuil particulier pour les consulter? Ou est-ce que vous allez piocher comme ça en restant debout et puis vous les reposez, vous en...
Non, j'aime bien être à une table, en fait. Donc je m'installe... Sur cette table
qui est dans le salon, qui est juste à côté.
Sarinen, et puis
vous posez le livre sur la table.
Voilà, je pose le livre sur la table.
Alors là, on est dans le salon.
En fait,
attendez, parce qu'il faut que je décrive quand même.
Ah bah oui, c'est
on fait de la radio, on est dans le salon et là, il y a de quoi décrire quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Encore une fois, je ne sais pas par où commencer. Il y a des tableaux partout, des photos incroyables. Il y a une batterie même dans le salon.
Oui,
les
oui.
voisins doivent
une batterie que
c'est
j'ai,
vous qui jouez
que j'ai créée pour Asba. Qui a relancé sa marque et qui m'a demandé leur première batterie.
Jaune, rouge, bleu.
Voilà, c'est ça.
Castelbajac.
Elle est très Castelbajac, très, très Bauhaus aussi et très héraldique. Hein, elle est un peu...
Et alors, bon, il y a plein de choses, mais il y a notamment une immense maquette de bateau sur la cheminée, mais pas un vieux galion ou un bateau 19e et tout, non. C'est un bateau de guerre, le Tourville, bateau assez connu, mais il doit faire 1m50, 1m80 de long.
Oui.
Sur la cheminée, il dépasse de part et d'autre. Qu'est-ce qu'il fait là?
C'est un hommage indirect à un de mes oncles qui était amiral de la flotte, Gérard de Castelbajac, qui a fini sa carrière en tant que secrétaire général de la marine. Et c'est un de ses marins... qui a donc créé cette maquette, qui était capable de naviguer, qui fonctionnait, il y avait un moteur, et qui est en cale sèche sur ma cheminée de marbre. Mais ça nous fait voyager.
Il y a d'autres livres un peu partout, et notamment sur une... En fait, ça a l'air d'être une banquette, mais ça ressemble à une planche à repasser.
C'est une planche de surf.
D'accord. Il y a des livres dessus.
C'est une planche de surf de Christian Gion, qui est un designer que j'aime bien.
Que vous avez monté en table.
Voilà, que j'ai monté en table. Non, c'est lui qui l'a monté en table. Donc, sur lesquels je pose... alors il y a les Sex Pistols, l'histoire intérieure.
Oui, mais racontez-nous votre histoire avec les Sex Pistols. Qu'est-ce qui vous...
En fait, elle a commencé avec mon amitié avec Malcolm McLaren. Elle a commencé par les New York Dolls en 73. Et ensuite, les 77 avec les Sex Pistols. Et j'aimais beaucoup toute cette espèce de fusion transversale avec Jamie Reed, qui était un très, très bon graphiste. Et j'ai vécu des moments inoubliables, comme j'en vis aujourd'hui. Hein.
En fait, vous faites un peu la même chose que Michel Pastoureau, c'est-à-dire que vous nous rappelez à tous que les couleurs existent. Michel Pastoureau, je rappelle que c'est un des historiens de la couleur, c'est-à-dire
formidable.
Qu'il fait un livre sur le jaune, un livre sur le
absolument,
bleu, et qu'est-ce que ça symbolise. Et...
Absolument. Ouais. C'est un homme merveilleux déjà, hein. C'est une espèce d'archéologue des émotions que peuvent provoquer la couleur et de l'histoire des couleurs. et on est très amis. Enfin, on a toujours trouvé un écho dans le travail de l'un et de l'autre.
Qu'est-ce que vous pensez de la couleur de notre époque ? Est-ce qu'elle est là, la couleur, plus qu'avant, en fait.
Vous savez, pour l'anecdote, dans les années 70, quand je travaillais avec Roger Talon sur les avions d'Air France, il disait que les gens qui étaient nantis, qui étaient très riches, n'aimaient pas la couleur. Ils l'aboraient. Donc, les gens n'aimaient que le beige, le blanc, le gris. Les bourgeois aimaient le bleu marine, le vert anglais, le bordeaux et le gris flanel. Alors que le peuple, puisque c'était la gamme des nantis, la gamme des bourgeois et la gamme du peuple, n'aimait que les couleurs criardes et fortes. Aujourd'hui, dans mon projet, c'était ça, c'était que la gamme du peuple devienne la gamme de tous. Et en fait, ça a été mon aventure professionnelle. Et on a en commun avec Michel de considérer que la couleur a des valeurs thérapeutiques, qu'elle a des valeurs fédératrices. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la couleur rassemble, elle unit.
C'est idiot de vous demander quelle est votre couleur préférée à vous ?
Moi, ce sera l'arc-en-ciel.
Qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs je raccroche, vous allez voir à mon domaine, qu'est-ce que vous pensez de la couleur des livres ? Dans les pays anglo-saxons, dans une librairie, c'est chatoyant, il y a des couleurs partout sur les couvertures. Nous, on est plus sobre, on est plus la blanche, mini.
Oui, mais je pense que cette transgression de la couleur, il y a une sorte de mutation en ce moment, en fait. On est en train de comprendre son importance, en fait, dans tous les domaines, dans le design, dans l'édition. Donc, voilà, c'est pour ça que ma couverture, moi, de dessin tout terrain, elle est impactante et forte.
Je vois une autre bibliothèque derrière une vitrine. Est-ce que ça veut dire que c'est des livres plus importants que les autres, protégés ou pas du tout ?
Oui, puisqu'il parle d'érotisme. Non, je plaisante.
Ah oui, il y a l'érotisme au cinéma. Voilà. En trois volumes. Mais c'est pas classé ici.
Non,
il y a un peu de tout.
Non, c'est un grand chaos.
Il y a de l'art, il y a du roman. Oui, il y a Céline, tiens, Voyage au bout de la nuit.
Voilà.
Illustré par Tardy.
Il y a un roman de mon oncle, Bertrand de Castelbajac, L'Officier perdu. Il avait fait aussi Sans vergogne. Ça que j'adore absolument,
Le Chevalier des Touches.
De Barbet m'a fait vraiment rêver. À un moment, à 17 ans, 18 ans, il faisait partie des livres interdits. Donc le rideau cramoisi, je crois que ça correspond vraiment à mes premières émotions sensuelles.
Comment vous les rangez, vos livres ?
Je ne range pas, je les range.
Mais c'est exprès ? Ou alors c'est que vous vous dites « Oh, je le ferai plus tard ».
En fait,
ou est-ce que vous aimez bien qu'il soit comme ça ?
Vous allez venir dans le sud-ouest, dans le Gers, et là, tout est bien rangé.
Il y a quoi dans le sud-ouest, dans votre maison du Gers ? Mais quels livres y sont ? Quels livres ont le privilège d'y accéder ?
Il y a, disons, toute une bibliothèque aussi historique, de ma passion pour l'histoire, une bibliothèque aussi avec les grands classiques, qui viennent de mon père, de ma mère, Balzac, Hugo, voilà. Donc c'est très bien, c'est bien rangé par mes fils. D'ailleurs, ça a été bien rangé par mes fils durant le confinement, parce qu'ils étaient confinés là-bas. Alors qu'ici, c'est plus un cabinet de curiosité, c'est plus un chaos. Un chaos dans lequel je pioche, en fait. C'est comme une source. C'est comme. Voilà, je googlise et je prends. Alors, il y a l'histoire qui est très présente dans ma vie. Hein.
Oui.
Vauban, Guillaume le Conquérant.
Jean-Christian Petit-Fils, l'historien aussi, là, voilà. Avec les énigmes de l'histoire.
Le Japon, qui a été très présent aussi dans ma vie, tant d'une manière littéraire, Murakami, Yeji Yoshikawa avec La pierre et le sabre, Les mules d'Edgar Poe et d'Ogawa Rampo, qui inventent des histoires abracadabrantesques de personnes qui vivent à l'intérieur de fauteuils.
La pierre et le sabre, vous nous racontez, c'est un peu une sorte de trois mousquetaires japonais, quoi.
C'est Dumas au Japon. Partie d'une histoire vraie, comme les trois mousquetaires. C'est l'histoire de Miyamoto Musashi, qui est un jeune samouraï qui naît d'une famille très ancienne mais très pauvre, puisqu'il a comme cadeau de son père une fausse épée durant son enfance qui est une épée en bois. Et donc il invente, il réinvente tous les codes de combat avec les moyens du bord, je dirais. Et il est confronté dans La pierre et le sable avec un duelliste, hein, on retrouve Conrad, extraordinaire, qui s'appelle Sasaki Kojiro, qui lui vient d'une famille, d'une vieille lignée, qui a toujours eu beaucoup de moyens. Et ces deux hommes s'affrontent sans cesse, c'est les duellistes en fait, hein, c'est très extraordinaire, sans jamais que l'un d'eux remporte le duel, jusqu'au duel fatal, hein, qui va amener Miyamoto Musashi à renoncer à l'épée, puisqu'il va, il va tuer son adversaire, et à devenir un des plus grands illustrateurs de son temps.
Quand est-ce que vous...
Et écrire un livre magnifique qui s'appelle « Le traité des cinq roues », hein, Gorin no Sho, qui est donné dans toutes les universités de business japonais, où il y a cinq éléments, l'eau, le feu, la terre, le vent et surtout le vide.
Quand est-ce que vous prenez le temps de lire? Est-ce que vous avez des heures consacrées à la lecture? Ou est-ce que c'est un peu quand vous pouvez?
Non, sincèrement, je n'ai pas d'heures consacrées à la lecture. Il y a cette émotion qui me lie à les lectures. J'arrive à voir des images au travers des lignes. Donc, la lecture a été le fondement de mon imaginaire. Hein. Donc, comme ça a commencé par le Moyen-Âge, par Joinville, par Villehardouin, par... voilà. Après, j'ai eu la chance de découvrir un livre qui était sur la stratégie militaire. J'ai toujours adoré ça. J'adorais Hannibal. Après, j'aimais des personnages obscurs de l'histoire qui étaient moins connus, qui étaient comme Bertrand du Guesclin. Et je suis venu à la littérature par les pics, en fait. Je suis vraiment venu à la littérature par les pics.
Et donc, par Dumas.
Et par Dumas, par Vercel, par des auteurs absolument. Et puis par les grands chroniqueurs du Moyen-Âge qui ne sont pas assez lus. Quoi,
entre l'histoire et le roman, quoi.
Entre l'histoire et le roman, définitivement.
Merci beaucoup Jean-Charles de Castelbajac.
Merci à vous de votre visite.
Et je rappelle le titre du livre de Jean-Charles de Castelbajac, Dessin tout terrain, c'est chez Flammarion. Et chez vous, Maria Pourchet, ils sont rangés comment les livres? Est-ce qu'il y a une grande bibliothèque? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous vous en débarrassez au fur et à mesure? Vous les donnez ou est-ce que vous les conservez comme ça, comme le syndrome de Diogène avec les livres?
Ah ben, y a tout ça. Il y a des bibliothèques dans chacune des pièces, enfin, entrée, couloir, chambre, salon. Je m'en débarrasse, oui, beaucoup avec le temps, mais j'en garde aussi beaucoup. Il y a une tentative de classement au départ par éditeur, hein, parce que ça fait donc des plages bleues pour Stock, des pages crème pour Gallimard, les minuits ensuite qui ont tous la même taille. Il y a vraiment cette volonté-là, mais en fait, j'arrive jamais à la tenir. Donc, il y a un espèce de classement... a priori anthropique, mais en fait qui a une vraie raison d'être. Je m'en suis aperçue que dans ma chambre, il y a les livres que j'ai envie de lire, mais que j'ai envie de relire, mais que je relis jamais. Là, par exemple, il y a Le Chant du Bourreau de Norman Mailer, un espèce de pavé qui, voilà, et il y a des choses comme ça. Et il y a dans le salon les livres que je ne lirai plus, mais que les gens peuvent emprunter quand ils viennent chez moi. Il y a les...
Que vous aimez, quoi.
Voilà. Et dans le couloir qui mène à ma chambre, il y a tous les poches que je reprends souvent, les Ernaux, les Giono, les Gary, les Pérec, les Aimé, tous les trucs qui sont là comme prêts à l'emploi parce que j'en ai besoin.
Eh bien, on va s'en rajouter quelques-uns de livres. Nous partons à Vaucresson rejoindre Thibaut Raden.
Bonjour Thibaut Raden.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir. Alors, d'habitude, vous, c'est plutôt le Japon. Et puis là, vous m'avez dit que vous alliez me faire une spéciale Russie.
Oui, exactement. Je vais vous faire une spéciale Russie avec deux médiums différents, une BD et un roman. Je vais commencer par la BD d'abord. La BD, c'est La princesse guerrière de Alexander Utkin. Et en fait, c'est un conte inspiré du folklore russe. C'est marqué en sous-titre. C'est pour tout âge, enfant comme adulte. Moi, j'ai pris un plaisir d'enfant en tant qu'adulte. En gros, on vous raconte donc des contes russes. Ce qu'il y a de plus basique dans leur folklore et dans leur génialitude, si je puis dire, avec un dessin qui est superbe. Il y a vraiment une mise en scène dans le dessin qui est hyper adapté en fait à ce qui est raconté. Il y a une créativité, il y a une couleur, il y a tout qui est génial. Et en fait, ce qui est superbe, c'est que c'est vraiment les contes qu'on a envie de raconter au coin du feu, soit pour faire peur, soit pour aller plus loin, pour que l'imagination elle déborde. En fait, il y a énormément de choses à apprendre de ces contes, ne serait-ce que de retrouver la fameuse Baba Yaga qu'on connaît un peu quand on s'intéresse à l'histoire de la Russie.
Vous nous racontez vite fait, parce que moi, je ne connais pas.
Baba Yaga, c'est une sorcière, en fait. Et c'est une sorcière qui, comme à peu près toutes les sorcières dans l'histoire du monde, elle est censée être méchante. Sauf que là, elle va tomber sur une jeune fille et elle va lui dire, en gros, tu as 3 épreuves à passer. Si tu passes ces 3 épreuves, moi, je peux t'aider à faire ce qu'elle veut faire. Et en fait, c'est une vieille dame, en fait, qui est toute seule, finalement. Et là, elle retrouve quelqu'un avec qui elle peut parler, quelqu'un qui l'aide et quelqu'un qui n'a pas peur de faire des choses. Et donc, en fait, on se retrouve à aimer un peu cette Baba Yaga, déjà parce qu'elle a des super pouvoirs et que c'est génial. Et aussi parce que on a presque l'impression que c'est elle qui nous raconte ces histoires. Comme si elle se faisait passer pour la narratrice, la conteuse. Elle nous raconte sa propre histoire. Ouais, vraiment, c'est vraiment un plaisir.
Et en plus, c'est vraiment les contes comme ça, anciens, à la fois très enfantins et en même temps parfois très très sombres. Ouais. Et le dessin un peu pareil, il y a beaucoup de couleurs, c'est très enfantin. Et puis tout à coup, il y a des corps démembrés, il y a des trucs vraiment, vraiment durs.
Ouais,
mais c'est des bons contes.
C'est ça qui marche bien. Là, ce conte-là est terrible. C'est deux frères qui vont trahir un autre frère, mais... On les retrouve à un moment donné, ils font peur. Et du coup, ça marche bien. Dans l'idée du conte, ça marche vraiment bien.
Le conte est bon, donc La princesse guerrière, Alexander Utkin. Et c'est chez Gallimard Bande dessinée. Et puis un roman de Gouzel Yakina, Les enfants de la Volga, c'est chez Noir sur Blanc.
Ouais, et alors ça, pour le coup, j'avais lu quelque part que je ne sais plus quel libraire avait dit « Attention, chef-d'œuvre ». Il a pas tort. Moi, je mets un petit bémol parce que, enfin, un petit truc attention parce que on sait jamais. Mais là, on a un livre. Wow, quand on lit ça, on se dit, c'est ce que je dis aux clients et quand je parle avec les gens en général, c'est que en lisant ce bouquin, la littérature a de beaux jours derrière elle et vraiment, enfin,
devant, pardon.
et vraiment, c'est superbe. Les enfants de la Volga, c'est un roman historique. Qui se passe donc en Russie, dans une partie de la Russie où en fait, à la demande de Catherine II, il y a très longtemps, il y a eu plein d'Allemands en fait qui sont arrivés. Et ces Allemands sont devenus une république soviétique indépendante, mais elle est restée allemande. Et nous, on va suivre en fait un prof qui va devoir faire cours à une femme, qui va tomber amoureux de cette femme. Et à partir de ce moment-là, il y a toute l'histoire avec un grand H et l'histoire, la sienne, qui se lance. Et c'est flamboyant, c'est magnifique. Il y a une écriture qui est fantastique. Moi, j'ai mis 2 semaines à le lire, alors que normalement, enfin, je vais assez vite, parce que je voulais lire tous les mots qui étaient utilisés. Il y a une langue qui est magnifique. Et je tire mon chapeau et je dis tout mon respect à Maud Mabillard, qui a traduit ce livre du russe, parce qu'elle a fait un travail qui est vraiment remarquable.
Et vendu déjà à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. Donc, Les enfants de la Volga, Noir sur Blanc, de Gouzel Yakina, et on a dit La princesse guerrière, un conte inspiré du folklore russe. Ça, c'est une BD grand format, Gallimard. Merci beaucoup, Tibor Aden.
Merci, Nicolas.
Retour à Europe 1 avec vous, Maria Pourchet, et Héloïse Goua, qui nous rejoint pour sa chronique littérature jeunesse. C'est pour maintenant, tout de suite.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Et on retrouve Héloïse Goua pour la littérature jeunesse. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'une femme assez exceptionnelle qui s'appelle Nelly Bly, que j'adore, qui est une journaliste de la fin du 19e, qu'on ne connaît pas trop en France. Mais quel est le rapport avec la littérature jeunesse?
Alors le rapport, c'est que l'album que je vous présente aujourd'hui, c'est un album illustré pour les jeunes de 8 à 13 ans, de Jean-Michel Billiou et Gabriel Berger, qui nous raconte la vie hors norme et 100% romanesque de cette femme qui a été la pionnière du journalisme d'investigation, pionnière du féminisme aussi. Alors on commence évidemment par sa naissance. On est en 1864 dans un petit village de Pennsylvanie. Dès 21 ans, Nelly Bly est engagée dans un journal. Et c'est là qu'on va voir poindre justement cette femme en colère contre le patriarcat. Elle se fait engager et elle commence à enquêter sur les conditions de travail des femmes dans des usines en se faisant passer elle-même pour une ouvrière.
Et donc là, elle invente ce qu'on appelle le reportage clandestin.
À la Florence Omna plus tard, etc.
Exactement, quelque chose, un travail d'immersion. Et justement, l'enquête clandestine la plus folle, et c'est le cas de le dire, qu'elle ait jamais fait, je vous laisse deviner, Nicolas, avec cet indice et cette musique légèrement inquiétante qui vient du film Shutter Island de Martin Scorsese.
Vous m'aurez pas, je connais par cœur Nelly Bly. C'est son enquête dans un asile.
Exactement. Vous en savez plus ?
Bah, en fait, elle s'est fait passer pour folle. Elle s'est fait interner pour enquêter sur les conditions dans les asiles à l'époque, parce qu'on en parlait beaucoup, il y avait des conditions très dures. Elle a fait son reportage et puis ensuite, il a fallu en ressortir. C'était beaucoup plus compliqué. Mais c'est assez fascinant comme enquête.
Exactement. Elle a dû se faire passer pour folle. Alors, vous imaginez le jeu d'actrice. Et ça, c'était pour le journal de Joseph Pulitzer. Je vous laisse découvrir comment s'est terminé cet épisode. Et comme ça ne lui suffisait pas, Nelly Bly, elle a continué les défis et elle s'est lancée un défi un peu fou. Je ne sais pas si vous le savez, si je vous dis Phileas Fogg.
Je vous dis Tour du Monde.
Et tout à fait, en combien de temps ?
En 72 jours.
Bah voilà, bah vous spoilez. Parce qu'initialement, elle s'est lancée le défi de faire le Tour du Monde en 80 jours, donc comme le personnage, le héros de Jules Verne, qu'elle a d'ailleurs rencontré pour l'occasion.
Jules Verne, pas le héros. Ouais.
Oui, bien sûr, Phileas Fogg. Et elle a voulu faire ça toute seule, à savoir 40 000 km. Mmh. Là, on est en 1889, il n'y a pas d'avion. Mmh. Elle part avec une robe, seule, une femme.
Elle se prend des réflexions misogynes sans arrêt.
Évidemment.
Et elle raconte et elle envoie ses articles au fur et à mesure
exactement.
À son journal.
Et c'est là qu'elle est devenue une star mondiale. Alors peut-être qu'elle a été un petit peu oubliée en France, mais à ce moment-là, même l'Europe suivait son périple.
Parfait, Nelly Bly, c'est vraiment à découvrir. Vous nous rappelez le titre de l'album ?
Tout simplement, Nelly Bly.
Oh, fastoche, chez Gallimard, c'est ça ?
Exactement.
Merci beaucoup, Héloïse.
Merci, Nicolas.
Et vous, Maria Pourchet, c'est quoi le premier roman que vous avez lu ou qui vous a marqué ?
Alors le premier dont je me souvienne et qui m'a vraiment marqué, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ah. J'avais des vieilles éditions, je crois, qui appartenaient à mon grand-père, qui étaient des éditions Marabout, vous savez, les très très gros poches avec des pages très épaisses. Donc il y avait trois volumes pour Monte Cristo. Et il m'a d'autant plus marqué qu'à l'époque, je lisais beaucoup, beaucoup trop, selon mes parents. Enfin, j'avais plusieurs cartes de bibliothèque. Et donc, je lisais la nuit, donc je ne dormais pas assez. Donc, pour tout ce qui est faculté d'apprentissage en CM2, c'était...
ça mon pouvait... enfant lit trop, c'est voilà. Des problèmes de riches, ça, quand
mon
même.
Mon enfant lit trop, ouais, non, mais c'était vraiment ça. Et donc, il me comptait les livres. Et j'avais eu droit à un volume de Monte Cristo par semaine. Sauf que j'avais lu en une journée, donc je relisais le volume jusqu'à ce qu'on me donne le deuxième. Donc je relisais, ça marchait pas du tout parce que c'est tellement fascinant comme histoire, on y entre comme dans un pays, quoi. On ne peut pas en ressortir. Et donc je relisais mon volume de Monte Cristo et après le dimanche soir j'avais le deuxième, j'avais les yeux explosés, j'avais pas dormi de la semaine. Et jusqu'au troisième, je le relisais.
Et vous l'avez relu depuis ?
Ah oui.
Avec l'autre lecture
ah
qu'on
oui,
peut
oui,
en faire ?
Ah oui, quand je ne sais plus où habiter. Je vais rechercher des très vieilles émotions d'enfance comme ça. Et parfois, il a eu ce... Monte Cristo a vraiment eu cette fonction-là. C'est...
Feu, c'est votre nouveau roman chez Fayard. Merci beaucoup, Maria Pourchet.
Merci à vous, Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.